France Culture.
La curiosité sous toutes ses coutures.
11h, 11h30,
un jeudi sur deux,
sur Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans France Culture. Tout d'abord, une très bonne année. Au menu, tous les 15 jours dans France Culture, l'actualité culturelle de l'Anjou et plus si affinité. Au micro, nous sommes 7, 7 chroniqueurs à fouiller, fouiner, dégoter les perles culturelles de la région. 7 dont la seule motivation est la curiosité. Autour de la table aujourd'hui, Cécile, qui est à la rencontre d'une céramiste, Minouche, qui nous parlera d'art et de politique grâce à la nouvelle expo au Musée des Beaux-Arts d'Angers, et tout de suite Isabelle, qui nous a déniché une nouvelle galerie d'art.
Oui, c'est la galerie 3838, située rue Toussaint, avec à sa tête Soizic Savary, une jeune femme qui s'est dénichée des artistes prometteurs. Angevine d'origine, elle revient sur nos terres après avoir passé 12 ans en Espagne. Soizic Savary, bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous accueillir. J'ai vu dans votre vitrine, en passant rue Toussaint, que vous exposiez à un jeune artiste angevin, Botteropop.
Oui, c'est exact. Donc, c'est l'histoire d'une très belle rencontre. C'est l'artiste qui est rentré le plus récemment dans l'équipe des artistes exposés. C'est l'histoire d'une rencontre totalement imprévue. Il a découvert la galerie et c'est une rencontre humaine, en fait, avant une rencontre artistique. Et c'est une belle aventure qui commence.
Alors, c'est un street artiste qu'on voit un petit peu dans les rues d'Angers, sur les murs. Je voulais savoir comment vous les choisissez, vos artistes.
Alors, d'abord, je les choisis avec le cœur, puisque c'est d'abord un coup de cœur artistique, mais c'est aussi un coup de cœur humain. C'est des relations humaines, c'est-à-dire qu'il y a un choix artistique, mais il y a aussi un choix humain derrière chaque choix.
D'accord. Cette deuxième artiste qui nous en met plein la vue, c'est une photographe. Elle s'appelle Leila Forès.
Oui, c'est exact. Donc, Leila est d'origine espagnole. Donc, comme vous avez dû le remarquer, il y a beaucoup d'artistes d'origine latine. Ça, c'est dû à mon parcours, effectivement. Ce ne sera pas que des artistes latins dans la galerie, puisqu'il y a Botteropop, bien sûr. Il y a aussi Sinan Güneli, qui a des origines turques, mais qui vit en France et qui a énormément vécu sur Angers. Et il y a Oscar Martin de Burgos, qui est également d'origine espagnole. Et Leila est une très grande photographe, très talentueuse, qui a remporté de très nombreux prix de photos à l'international. Elle a remporté l'année dernière la médaille d'argent au Grand Prix de la photo de Paris. Elle a remporté récemment une médaille d'or au TIFA, le Tokyo International Photo Award. Et bon, un nombre incalculable de récompenses sur le plan international.
Vous pouvez nous parler de son art ? Qu'est-ce qui est particulier chez elle dans sa façon de photographier ?
Alors, elle est spécialisée dans tout ce qui est double exposition, les flous artistiques. Il y a un côté vintage dans toutes ses photos, avec une très belle élégance, une mélancolie. Il y a beaucoup d'émotions qui transparaissent à travers chacune de ses photos. Elles ont le même style artistique. On reconnaît sa patte, tout comme on va reconnaître par exemple un Van Gogh. On reconnaît du Leila. Mais chacune de ces photos est en même temps différente. C'est-à-dire qu'on reçoit des émotions différentes en les regardant.
Ce n'est que du noir et blanc ?
Ce n'est presque exclusivement que du noir et blanc, dû notamment à une insatisfaction en général de la part de l'artiste sur le rendu couleur des laboratoires photos. Mais on a réussi à trouver un laboratoire qui correspond à ses critères de qualité. Donc peut-être qu'elle fera un petit peu plus de couleurs à l'avenir, mais pour l'instant, oui, c'est ce qui l'attire le plus.
Et je voudrais revenir sur Sinan Güneli, qui est un artiste dessinateur autodidacte très influencé par Keith Haring. Comment il est arrivé dans votre galerie ?
Alors, il est arrivé dans ma galerie à travers Leila, finalement, puisque c'est une personne qui connaissait Sinan, qui est venue voir l'exposition de Leila que j'avais faite en Mayenne, à Laval. Et donc, en fait, en parlant avec cette personne, on a découvert cet artiste-là. Et c'est un artiste qui, malgré son jeune âge, est déjà un artiste confirmé. Il y a un grand choc visuel, une grande force dérangeante dans son art qui renvoie à des questionnements. Et quelque part, c'est un très bel artiste parce que je trouve qu'il complète Botteropop. Puisque Botteropop, c'est la légèreté, la joie infantile, la joie rassurante. pendant que Sinan, lui, c'est des chocs visuels, des choses un peu dérangeantes qui renvoient des questionnements. C'est un bel équilibre, en fait, finalement. C'est une belle symbiose, finalement. Ça se complète énormément. Ils ne sont pas du tout dans les mêmes styles. Et en même temps, ce sont toutes les deux des très belles personnes.
Comment définiriez-vous votre métier ? Est-ce que vous êtes une marchande, une agente d'artiste ?
Alors, les deux à la fois, puisqu'en fait, je suis agent d'artiste pour certains des artistes. Donc, agent, c'est négocier des contrats, c'est négocier, c'est orienter l'artiste dans ses choix de carrière. Il faut faire preuve de beaucoup de psychologie, puisque chaque artiste est différent. Chaque artiste a des attentes complètement différentes. Tout le monde ne veut pas la même chose. Certains vont rechercher un petit peu plus la célébrité, d'autres vont avoir besoin d'argent, d'autres vont avoir besoin de la reconnaissance de leur père. Et en fonction de leur desiderata, c'est à moi de les orienter vers ce qu'ils désirent le plus. Après, pour obtenir un petit peu, atteindre leurs objectifs, concernant la galerie, oui, je suis marchande, bien sûr, puisque... En fait, on a besoin effectivement d'exposer ses œuvres pour les faire découvrir au public. Et effectivement, on a besoin de les vendre pour qu'ils puissent vivre de leur art.
Je voulais vous demander également quel était le concept de votre galerie. Parce que est-ce que c'est une galerie comme les autres ? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que ce n'était pas le cas. Alors expliquez-vous.
Alors, au niveau de la galerie, c'est une galerie qui est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, j'attends que tout le monde puisse oser pousser la porte. C'est pas que une galerie, c'est aussi un musée, en quelque sorte, puisqu'il y a une exposition gratuite au public. Surtout, si j'ai un message à passer, je sais que souvent, les gens sont un peu impressionnés par les prix qu'ils peuvent voir
en vitrine,
mais n'hésitez pas à pousser la porte. Tout le monde est le bienvenu, surtout. Sera reçu avec la même bienveillance, les mêmes explications. Que vous achetiez ou que vous achetiez pas, c'est la même chose. Venez profiter de l'art. Venez admirer l'art. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui ont un certain prix. Mais quand on a une sculpture d'Oscar Martin de Burgos qui est déjà reconnue et où il y a 40 kilos de bronze, c'est clair qu'au niveau du prix, ça ne peut pas être la même chose qu'un dessin ou une peinture.
On n'est pas obligé d'acheter, qu'on peut rentrer dans une galerie d'art juste pour regarder.
Oui, vous serez les bienvenus, surtout rentrez.
Une question concernant le nom de la galerie, Galerie 3838. Alors, ça paraît un peu mystérieux comme ça, la magie des chiffres, vous pouvez nous en dire plus ?
Alors oui, ça l'est tout à fait, parce qu'en fait, je cherchais un nom de galerie, et par hasard, j'étais en train de me balader sur Internet, et le hasard a fait que je suis tombée sur... Vous savez, il y a des carnets de tendances qui décrètent, il y a des experts de la société Pantone qui décrètent chaque année des carnets de tendances, des couleurs qui vont être à la mode. Et après, on le retrouve dans tout ce qui est ameublement, mode, etc. Et il se trouve que ces experts-là avaient décrété en 2018 que la couleur à la mode, le Pantone, serait le 18-38-38, qui est l'ultraviolet. Et il se trouve que l'ultraviolet est une couleur que j'affectionne. C'est aussi la couleur du mystique, effectivement, puisque c'est la couleur des évêques.
On est bien placé.
Voilà, n'est-ce pas ? C'est la couleur du respect, de la concentration, des mystères et des voyages inconscients, en fait. J'ai trouvé ça magique, effectivement, que cette couleur soit venue à moi, puisque quand on regarde une œuvre, il y a beaucoup de voyages inconscients, finalement. C'est une introspection. Donc, c'était une évidence, en fait. Ça collait bien à la démarche d'une galerie.
Et est-ce que vous avez des projets à nous annoncer ?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, on a une nouvelle exposition qui va avoir lieu du 21 janvier au 20 février sur le thème, ça va s'appeler « Amour, etc. ». Pourquoi « Amour, etc. » C'est un hommage à la chanson de Gainsbourg « aux armes, etc. ». Pourquoi « aux armes, etc. » Ça colle à deux actualités. D'abord, il va y avoir la Saint-Valentin, le 14 février. Et ensuite, on voit qu'en ce moment, on a un petit climat un peu tendu. Un climat social et
divers. C'est pas
divers.
Peu de le dire.
Voilà. Et finalement, aux armes, etc., l'amour, c'est la plus puissante des armes. C'est le plus désarmant des sentiments. Et finalement, c'est le message que je souhaitais passer.
Sois-y que ça varie, merci.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup Isabelle, merci Soizic. Et courez tous vite découvrir la galerie 3838, 17 rue Toussaint à Angers. Musique.
La palette de couleurs.
On retrouve Cécile avec une discipline entre l'art et l'artisanat, la céramique.
Et oui, la céramique, c'est un artisanat qui a le vent en poupe actuellement. Rien de plus tendance qu'une belle vaisselle en terre émaillée. C'est à la fois chic et décontracté. Mais si le travail de la terre offre des possibilités de beaux objets design et authentiques, il permet aussi des créations purement artistique. Et Stéphanie Baudouin-Goujon, que j'ai rencontrée dans son atelier de céramiste à Saint-Lambert-du-Laté, joue avec talent sur cette ligne de crête.
Alors, comment est-ce qu'on se forme à l'art de la céramique? Est-ce qu'elle a suivi un cursus spécial?
Alors, pas vraiment. Elle a suivi une formation artistique au départ et est arrivée bien plus tard vers le travail de la terre, mais pas totalement par hasard.
J'étais étudiante aux Beaux-Arts en architecture intérieure et design. Donc la matière m'intéressait et m'intéresse toujours. C'est le démarrage et j'ai travaillé après plusieurs matériaux à l'école de bronze. Puis je me suis formée à la ferronnerie. On est toujours dans les arts du feu et la terre est arrivée. J'ai arrêté la ferronnerie, j'ai laissé en stand-by la ferronnerie et j'ai poursuivi par la terre qui est également un art du feu.
Alors pour l'anecdote, Marie-Stéphanie Baudouin-Goujon a tout d'abord fait de la céramique en loisir dans une association comme vous et moi, avant de se lancer totalement en 2014 comme professionnelle.
Quel type d'objet elle crée?
Alors j'ai envie de commencer par ce que l'on voit le plus dans l'atelier, c'est-à-dire la vaisselle. Donc dans son atelier ou sur sa page Instagram, hein, vous pouvez aller la consulter, elle est très belle. On voit des lignes sobres, arrondies, qui mettent vraiment en valeur la matière. On voit des couleurs pastel, beaucoup de blanc, des crus avec des touches de beige, de rosé, de vert clair aussi. Elle aime, sur les bols, les tasses, laisser une partie extérieure non émaillée qui va laisser apparaître la terre brute, la couleur de la terre qui va être souvent beige clair rosé ou parfois carrément noire après cuisson, ça dépend de l'origine de la terre. Et pour résumer son travail, Stéphanie nous décrit ses objectifs.
Je cherche à faire une vaisselle qui peut s'utiliser tous les jours. Avec bonheur, quelque chose qu'on a envie d'avoir dans la main, d'utiliser, de réutiliser et d'avoir quelque chose de visuellement élégant.
Voilà, l'élégance au quotidien, c'est vraiment ce qui caractérise son travail. Finalement, cette technique artisanale de la terre, artisanale traditionnelle, au service d'objets pratiques, mais esthétiques, c'est du design contemporain avec du traditionnel.
Mais alors la technique de la céramique, c'est quoi exactement ?
Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il existe une multitude de sortes de terres qui ont chacune leurs contraintes de modelage, de cuisson, leurs couleurs, on l'a vu, il y a des couleurs qui vont être très blanches, très rosées, voire noires après la cuisson. Et ces terres se travaillent différemment, elles sont plus ou moins souples, plus ou moins rapides. Et surtout, il faut les cuire à température élevée ou à température plus faible. Par exemple, la terre utilisée pour la faïence se cuit à basse température, mais les pièces fabriquées seront beaucoup plus fragiles pour le quotidien que celles en grès ou en porcelaine qui vont être extrêmement dures. Et donc, il y a des techniques différentes de travail. Chaque artisan fait ses choix.
Moi, je travaille le grès. Donc là, on est sur des grès de Saint-Amand, un grès noir. Le grès, c'est une terre qui cuit à haute température. Je cuis à 1250, mais ça peut être plus que ça. Moi, je modèle beaucoup. Je ne travaille pas avec le tour. C'est ma particularité. C'est estampé ou monter aux colombins.
Et alors les colombins sont des grandes,
oui, je pense que tout
des grandes
connaît.
Tiges. On a tous fait ça petit.
On a tous fait ça petit. C'est une très bonne technique et on peut faire de très belles choses aux colombins.
Que du modelage ?
Si, du moulage, parce que j'ai aussi des moules en plâtre. Donc là, c'est de l'estampage.
Et oui, les colombins, Marie, ça vous rappelle peut-être quelque chose ? Ces grands ronds qu'on tournait petit pour monter des vases, des bols et le tour de potier. Et le tour de potier, je pense qu'on l'a tous eu jeune enfant. Mais finalement, ces techniques très simples et très, très pratiques sont toujours utilisées. Et il faut savoir qu'on fait aussi de la couture, c'est-à-dire qu'on pose deux plaques l'une sur l'autre et on fait des trous et on coud pour faire rentrer de la terre. Il n'y a pas de fil, mais c'est une couture à la terre, c'est assez drôle à voir.
Vaisselle, on l'a vu.
Oui, il y a la vaisselle, mais si on demande à Stéphanie Baudouin-Goujon ce qui est réellement emblématique dans sa création, la réponse fuse.
Le plus significatif est celui qui est là depuis très longtemps, c'est le travail autour de l'animal, la sculpture animalière. Ça, c'est quelque chose que je travaille depuis 20 ans, 30 ans.
Bon, alors vous verrez, à côté des bols, des plats et des assiettes, il y a effectivement des sculptures de lièvres, de grenouilles, de chouettes effraies et de rats. En fait, elle adore tous les animaux qu'on n'aime pas et qui nous font peur. Et elle les crée en grand ou en petit modèle, avec délice visiblement. J'ai particulièrement aimé une grande sculpture, Marie, de grenouille, qui est très fière, dressée sur un socle imposant, le menton levé comme une gardienne qui toiserait le visiteur. Et c'est là, en voyant ce travail, que l'on sent que la céramique peut être à la frontière de l'artisanat et de l'art. Et Stéphanie n'a pas envie de choisir. Si on lui demande de se définir, elle répond « Je suis une céramiste partagée entre l'art de la table avec ma vaisselle et la sculpture animalière. Deux disciplines que j'aime beaucoup pratiquer, mais de temps en temps, j'aimerais les faire fusionner. » Et c'est effectivement les fusionner son projet d'avenir, ce qu'elle est en train de développer. Par exemple, elle est en train de créer des plats sur lesquels elle va ajouter, introduire des éléments de sculpture, pas des éléments décoratifs, des éléments vraiment de sculpture. Alors, il y aura beaucoup d'éléments du monde animal, il faut s'y attendre. Elle va mettre ça sur les couvercles, sur les côtés, en travers. On sent que son imagination est vraiment à l'œuvre et cela nous promet de belles découvertes à suivre donc.
Merci Cécile. Vous trouverez le travail de Stéphanie Baudouin-Goujon sur son compte Instagram, à son nom, tout attaché, et aussi sur son blog, gréducotidien.canalblog.com, si vous souhaitez découvrir ses créations. Et maintenant, un peu de musique avec Schubert, qui est le compositeur des Folles Journées cette année.
Thank you.
Minouche, vous êtes allée pour nous visiter la nouvelle exposition du Musée des Beaux-Arts d'Angers.
Charles, Melchior, Artus, Marquis de Bonchamp, ça vous parle, Marie ?
Un peu.
Et Pierre-Jean-David d'Angers ?
Alors là, un peu plus.
Je vais donc me tourner quand même
en bonne Angeline.
Vers Véronique Boisdard pour nous éclairer. Véronique Boisdard, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous êtes commissaire de l'exposition du Musée des Beaux-Arts d'Angers. Le monument de Bonchamp, David d'Angers, l'art et la politique. Mais quel titre, hein ?
Un peu long, mais je le voulais significatif. Alors, j'ai cherché quelque chose de plus court, je n'ai pas trouvé.
Alors, avant de découvrir le cœur de cette expo, parlez-nous des deux hommes qui se partagent l'affiche et du monument qui les lie. C'est qui le marquis de Bonchamp ?
Alors, le marquis de Bonchamp est issu de l'ancienne noblesse angevine. La tradition familiale voulait qu'il rentre comme militaire. Donc à 16 ans, en 1776, il intègre le régiment d'Aquitaine et il poursuit une carrière militaire sous Louis XVI, donc juste avant la Révolution française. Il part même en Inde pour combattre les Anglais. Et puis arrive l'arrestation du roi Louis XVI à Varennes, donc le 21 juin 1791. Et là, la constituante demande aux militaires de ne plus prêter serment au roi, mais bien à la nation. Et donc, dans l'exposition, on a bien le serment signé par Bonchamp, donc le 1er juin 1792. Mais pendant ce mois de septembre, il y a eu 2000 prisonniers tués dans les prisons parisiennes. Et là, il démissionne et il revient sur ses terres, donc à la Baronnière en Anjou.
Il revient à la Baronnière en Anjou et il renoue avec la tradition royaliste qui était la sienne.
Il a toujours été royaliste.
Oui.
Et là, donc, en Vendée, en mars 1793, il y a une insurrection puisqu'on demande une levée d'hommes assez très élevé à la Vendée, qui se refusent à livrer leurs enfants. Et donc, ils se mettent en insurrection et ils viennent chercher Bonchamp sur ses terres en lui demandant de se mettre à leur tête. Et Bonchamp hésite, mais finalement, il vient et il sera un des généraux donc de l'armée catholique et royale, qui compte à peu près 40 000 hommes à cette époque-là.
Et c'est le début des guerres de Vendée.
C'est le début de la guerre de Vendée. Il va participer à de nombreuses batailles. Et c'est au choc de Cholet, donc le 17 octobre 1793, qu'il est mortellement blessé. Et donc c'est le début de la virée de Galerne. Donc les Vendéens, à peu près 80 à 100 000 hommes, femmes et enfants, refluent vers Saint-Florent-le-Vieil.
Oui.
Bonchamp est amené sur une civière juste en face à la Meilleraie. Et là, un de ses derniers gestes, ça a été de demander la grâce pour les prisonniers républicains qui étaient enfermés dans l'abbaye de Saint-Florent.
Et auxquels on allait réserver un sort absolument terrible.
Ah ben, ils étaient sur le point d'être massacrés.
Donc il gracie dans ses tout derniers moments 5000 hommes.
Voilà, c'est ça. Et son geste est donc il le fait partir envoyer à ses soldats qui évidemment savent que c'est son dernier ordre et donc ils lui obéissent.
Ils lui obéissent. Et c'est peu d'années après sa mort que David d'Angers, le célèbre sculpteur, va intervenir. Mais avant qu'on parle de cette intervention, parlez-nous de David d'Angers. Quelques mots pour le décrire et dites-nous d'où il vient.
Alors, David d'Angers, c'est un célèbre sculpteur, très très connu à son époque. Il est né à Angers, donc dans une famille assez modeste. Le père était un sculpteur ornemaniste. Et le père était aussi soldat républicain, donc il s'est battu, lui, pendant les guerres de Vendée, mais dans l'autre bord, parmi les républicains.
Donc on est bien clair, David d'Angers, il est républicain, Bonchamp, il est royaliste.
C'est ça. Et David, on le sait depuis, parce que quand il poursuit sa formation à Paris puis à Rome, il écrit énormément à ses amis et à son ami intime, il se livre librement et donc il dit bien ses idées politiques et il dit bien aussi qu'il faut être prudent et de pas en faire trop état pour pouvoir travailler.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il pousse à accepter, 18 ans après le décès de Bonchamp, de faire un monument à la gloire de Bonchamp?
Alors, il vient de terminer ses études à Rome. Il rentre en France après un bref séjour à Londres. Il a alors une première commande royale, donc ça commence bien, sa carrière débute bien, mais il a besoin de travailler et de faire des sculptures, des statues, pour pouvoir devenir un sculpteur connu et reconnu. Et c'est vraiment ce qui le pousse, parce que dès qu'il est très jeune, vers 5-8 ans, il sait déjà ce qu'il veut faire.
Oui.
Son père essaye de le dissuader parce que c'est difficile, une carrière difficile. Il fait même une tentative de suicide, nous dit-il, pour lui faire comprendre qu'il
veut
faire.
Être sculpteur et il veut être un sculpteur reconnu. Et donc, ce monument, et d'abord, je précise qu'on peut le voir dans l'église de Saint-Florent-le-Vieil, hein, un magnifique monument. Et en fait, il est pas, tout n'est pas bienveillant parce qu'il y a les carnets de dessin de David qui sont un petit peu. Qui interpellent un peu.
Alors, effectivement, il fait tout pour avoir cette commande. Donc, à son retour de Rome, vers 1817. Et il réalise cette commande 8 ans, jusqu'à 8 ans après. Et au moment de l'inauguration, en 1825, il fait les croquis des hommes, des soldats de Bonchamp qui sont venus assister à l'inauguration. Et il en fait certains. Où on voit qu'ils sont majestueux dans leurs vieux habits avec les vieilles tresses. Donc on voit qu'il veut rendre hommage à ses soldats, mais par ailleurs, il a un dessin qu'il a fait d'une brute immonde, dit-il, pour une étude phrénologique. Donc on voit bien qu'il est un peu ambigu sur ces personnages-là.
Mais d'ailleurs, ambigu, c'est un mot qui revient souvent hein, dans votre langage quand on parle de David et par rapport à son œuvre. Et donc on peut quand même dire que ce monument va lancer sa carrière.
Alors oui, il lance sa carrière, il est présenté au salon de 1824 et à l'issue de ce salon, il recevra la Légion d'honneur.
Et donc il va naviguer dans la suite entre art et politique et parfois il s'oppose au gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce qui se passe pour le fronton du Panthéon qu'il a réalisé?
Alors, David est connu, donc c'est le début de la monarchie de Juillet 1830. Il est connu pour ses idées progressistes en matière sociale. Et ça n'empêche pas le gouvernement de faire appel à lui pour décorer le fronton du Panthéon qui doit être fait. Donc le fronton du Panthéon, le Panthéon est redevenu, était autrefois une église et redevient dédié au culte laïque des grands hommes. Donc David fait des propositions, on lui laisse le champ libre en quelque sorte. Et quelques temps avant l'inauguration, le ministre Adolphe Thiers lui dit de changer deux de ses personnages qui ne conviennent plus au gouvernement. Donc Manuel et Lafayette qui sont tombés en disgrâce. Et puis l'archevêque de Paris ne veut plus voir Voltaire et Rousseau. Et alors là, il se fâche, il ne se soumet pas. Il fait appel à la presse pour décrire la situation qu'il vit. Et du coup, évidemment, l'inauguration n'aura pas lieu. Il a obtenu gain de cause quand même, mais ce sera sa dernière commande politique. L'indépendance a un prix.
Voilà, donc ce sera sa dernière commande de l'État. Et ensuite, il s'engage vraiment dans la vie politique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette vie politique? Parce qu'on ne la connaît pas et elle n'est pas souvent mise en avant.
Alors, il se présente trois fois à la députation. En 34, 37 et 39. Et il sera élu... Bien, un peu plus tard, en 48, il est élu maire en février 48 et il sera élu à la Constituante en avril 48 de la même année.
Et donc, on voit que quand même, il devient de plus en plus républicain, il se radicalise complètement.
Oui, si au début il a accepté la monarchie de Juillet, il va se radicaliser face aux censures, face aux répressions que le régime met peu à peu en face. Et il va se positionner à l'extrême gauche de l'échiquier, dans le parti de la Montagne.
Et quand même, est-ce qu'il reconnaîtra qu'il a fait un monument pour les royalistes en parlant du monument de Bonchamp?
Alors là, c'est tout le propos de l'exposition, c'est que justement, il parle de cette justification tardive en disant qu'il a fait un hommage à Bonchamp parce que son père était prisonnier, faisait partie des prisonniers
qui aurait dû mourir dans l'église.
Voilà. Or, il le dit, 18 ans après avoir obtenu la commande, il n'en parle jamais avant. Il y a des éléments qui sont contradictoires et donc on pense que c'est peut-être une justification qu'il trouve à ce moment-là pour arrêter les attaques de la presse.
Oui, parce que les attaques de la presse étaient virulentes contre lui.
Très virulentes. Il fait partie du journal des Girouettes, par exemple, où il en était 3 étoiles.
Bien, écoutez, on va être obligé de conclure parce qu'on n'a pas assez de temps. C'est vraiment passionnant, Véronique Boisdard, et merci beaucoup. Et je conseille tous nos auditeurs d'aller voir cette exposition pour apprendre énormément de choses sur cette époque troublée, et puis sur David d'Angers, vraiment, et sur Bonchamp. Moi, j'ai appris plein de choses. Il y a des dispositifs numériques qui sont à notre disposition, c'est génial. Et voilà, et je vais laisser la parole à Marie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à toutes les deux. Eh bien, c'est la fin de cette nouvelle émission de France Culture. 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci, chers auditeurs de Radio Campus, pour votre écoute. Retrouvez-nous pour la rediffusion de l'émission le mardi à 17h. Nous serons de retour bientôt et n'hésitez pas à nous écouter en podcast et de partager, liker sur les réseaux sociaux. Merci à tous.
À retrouver sur le www.radiocampusangers.com.